OK, on va commencer notre sixième sermon dans la série sur la providence. Ce soir, nous allons regarder la providence et la préservation du mal pour les saints. Donc, on va voir en gros l'idée que la providence agit souvent dans nos vies en érigeant des barrières et en empêchant diverses choses, et aussi la providence qui nous protège dans les dangers. On va regarder différentes choses à l'intérieur de ça. Alors, on va faire quand même une brève révision de ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que ça nous aide à garder un plan d'ensemble de tout ce qui est contenu dans ce chapitre de la Providence. Dans le premier, on avait étudié que le décret de Dieu, c'était vraiment le plan que Dieu avait fait dans l'éternité, et que la Providence, ce n'était que l'exécution ou le déroulement de ce plan-là dans l'espace et dans le temps. On avait observé que Dieu préserve sa création, qu'il coopère avec elle et qu'il gouverne absolument tout dans l'univers dans un but très précis. Dans le deuxième sermon, on avait examiné comment Dieu supervise et intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus, et cela à la fois collectivement et individuellement. Alors, on avait vu différentes caractéristiques de la providence, le fait qu'elle soit universelle, efficace, bénéfique, encourageante et révélatrice du caractère de Dieu. Le Seigneur est le chef d'orchestre pour diriger le merveilleux concert des circonstances de nos vies. Alors, on avait vu dans la deuxième leçon qu'il était souhaitable pour des chrétiens de consigner par écrit les miséricordes de Dieu que Dieu nous a accordées dans le passé pour que lorsque on va connaître des détresses ou des difficultés ou des épreuves, qu'on puisse implorer la délivrance de la part de notre Dieu. Dans le troisième, on avait regardé les providences de Dieu dans nos vies, dès le sein maternel, dans toutes les circonstances particulières de notre naissance et de notre éducation, et enfin, comment Dieu nous a guidés dans le choix de nos emplois et professions. Dans le quatrième, on avait apprécier que la providence de Dieu, à notre égard, brillait de ses feux les plus éclatants et les plus glorieux, parce qu'absolument rien sur cette terre ne peut égaler la sagesse et la bonté du Seigneur, que la manière dont il a orchestré les occasions, les moyens et les instruments de notre conversion et de notre salut. Autrement dit, peu importe les facettes qu'on va regarder dans la providence, si on compare ça à notre conversion, c'est des copies pâles, qu'on pourrait dire. C'est vraiment l'aspect le plus glorieux, c'est vraiment notre conversion. Dans le cinquième sermon, on avait examiné comment l'Éternel a agi, continue d'agir et agira dans le déroulement de nos affaires familiales. Autrement dit, dans notre mariage, nos enfants et absolument tous nos besoins. Et dans ce sixième sermon, nous verrons un autre grand avantage de la supervision providentielle de Dieu dans nos vies, la préservation des pièges et des tentations du péché. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous lisons « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est quand même intéressant de se faire souvenir ça, que Dieu ne permet pas des tentations au-delà de nos forces. Il permet toujours, en même temps qu'on l'a, un moyen pour qu'on puisse s'en sortir. C'est quand même une très belle vérité à se souvenir en tout temps. Alors, le Seigneur accomplit cette préservation-là de deux façons éminentes. D'abord, la première, c'est la grâce interne. Galates, chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Oui. Alors, la grâce interne, c'est le fait qu'on est habité par le Saint-Esprit. On est tenté, la chair voudrait nous ramener dans toutes sortes de vieilles choses, mais à quelque part, il y a un combat, il y a un conflit, et ça, c'est Dieu, c'est la grâce interne qui permet qu'on ne retombe pas, comme ça dit, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on voudrait. Et l'autre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'œuvre externe de la providence, donc l'intervention de Dieu dans nos vies, de façon directe. C'est surtout cet aspect-là qu'on va développer aujourd'hui. Donc, le premier point, la providence agissant comme barrière et empêchement. Dieu connaît parfaitement notre nature pécheresse et sa force d'attraction sur nous. Son intervention est souvent nécessaire, sinon nous serions submergés par la puissance de notre nature corrompue. On sous-estime souvent la puissance de notre vieille nature, et si Dieu parfois n'intervenait pas, c'est vrai qu'on serait submergé. Alors, on va regarder différentes façons dont l'Éternel agit comme barrière et permet des empêchements dans nos vies. Le premier, qu'il prévient l'abondance du péché. On se souvient dans Genèse 19, versets 9 à 11, que les sodomites avaient vraiment des convoitises insatiables et que Dieu a stoppé, a permis qu'ils soient aveuglés. Alors, on voit que parfois, si Dieu avait laissé les choses aller, ça serait, le péché se serait multiplié. Alors, dans le texte, ça dit, « Ils dirent, retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Voyez-vous, Dieu aurait pu permettre que Lot soit pris par les sodomites. Et dans le verset 11, il dit, « Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. » Alors, ici, le Seigneur nous donne l'exemple de prévention du péché. On lit, par exemple, aussi dans 1 Roi, chapitre 13, verset 4, on se souvient dans le contexte, c'était le roi Jéroboam qui n'avait pas d'affaire à offrir des sacrifices. Il l'a fait quand même. Et lorsqu'il a été repris par le prophète, il avait voulu frapper le prophète et Dieu avait permis que son bras sèche. Alors ça dit dans le verset 4 et dans le verset 5, « Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Voyez-vous, il voulait frapper un prophète, puis Dieu a permis que son bras sèche. Et Job 5, verset 12, Dieu nous dit, « Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. » Sans doute que si on serait conscient de tous les empêchements, de toutes les barrières que Dieu met pour parfois le péché pourrait se répandre et se développer à une vitesse telle que le Seigneur pourrait, si nous on aurait des graves problèmes. Alors il prévient l'abondance du péché. Permet aussi l'interposition de sages conseils. À qui d'entre nous, c'est jamais arrivé que quelqu'un, un chrétien, nous donne un bon conseil sur quelque chose qu'on s'apprêtait à faire, puis il nous a dit, « Ben là, t'as-tu pensé? » Et à quelque part, ça vient freiner notre désir de pécher. Mais ici, on va prendre l'exemple de 1 Samuel 25, versets 32 à 34. On a Abigail, qui était la femme de Nabal. On sait que c'était un homme qui était reconnu pour sa folie. Et qui avait, David les avait protégés dans le champ avec et il avait vraiment mal répondu à la demande de David de l'aider parce qu'il était rendu à une période de l'année où il était dans la très grande abondance. Il aurait pu aider David et il a refusé. Et on sait que dans le contexte, David s'apprêtait à aller les attaquer et à tuer tout le monde. Alors, Abigail, ça nous dit dans le verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Alors, il reconnaît la main de Dieu dans l'envoi d'Abigail à sa rencontre. « Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Alors, on voit que ici un bel exemple que Dieu permet l'intervention, l'interposition d'un conseil qui a changé non seulement la vie de David, mais a changé la vie de paquet de monde qui était autour de Nabal. Mais Nabal, lui, avait fini par mourir, mais par l'intervention directe de Dieu. Autre façon de barrière et servir de barrière et d'empêchement, c'est que parfois Dieu détruit les moyens, les instruments. Je me souviens d'une personne que j'ai connue qui était un professionnel qui avait acheté des blocs appartements. Il était, autrement dit, c'était un chrétien qui commençait à s'embourber dans le matérialisme. Le Seigneur a permis qu'il fasse une énorme faillite parce qu'il a été volé par son gérant, puis il a été exploité par son gérant qui gérait sa fortune, puis il a tout perdu. Alors on peut, c'est sûr que sur le coup, quand ça arrive, on peut se dire, « Ah, moi qui ai tellement investi, j'ai tellement... » Et le Seigneur n'a pas permis ça dans sa vie pour rien. Alors parfois, le Seigneur détruit les moyens par lesquels, si on est dans l'idolâtrie, on s'en va que quelque part, il détruit le moyen par lequel on est idolâtre. Ici, on a l'exemple du roi Josaphat, qui avait voulu s'associer avec un roi impie pour aller à la guerre. Et le Seigneur avait permis que la flotte de bateaux qui s'était construite dans ce but-là a été détruite. On lit dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 35 à 37. « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. » On a un bel exemple ici d'une personne qui est un chrétien qui s'allie avec un inconverti pour faire quelque chose. Le Seigneur n'approuve jamais ces choses-là. Verset 36, « Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etzjon-Geber. » Alors Eliezer, fils de Dodova, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Alors voyez-vous, ça quand même, c'est son enfant, mais il détruit une partie des choses qu'il avait construites dans le but. Alors le Seigneur, parfois, peut faire la même chose dans nos propres vies. Si on s'en va trop loin dans l'idolâtrie, il peut permettre de détruire les moyens par lesquels on se dirige vers là. Parfois aussi, c'est l'envoi d'afflictions corporelles. On prend l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. On sait que Paul avait eu des révélations du Seigneur. Il avait vu des choses, il avait entendu des choses dans le ciel qui étaient vraiment... Ça aurait pu lui faire monter la tête, y enfler la tête. Et le Seigneur a permis, dans 2 Corinthiens 12, on voit que Paul, pour éviter qu'il soit enflé d'orgueil, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alors, on voit que ça faisait souffrir Paul. Il a demandé à Dieu, « Pourrais-tu m'enlever ça par trois fois? » Le Seigneur a dit non. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, quand on se sent faible, on devrait être content parce que Dieu dit qu'il se manifeste dans la faiblesse. C'est intéressant. Osée, chapitre 2, versets 2 à 6. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai auprès de mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Et vous, dans le fond, là qui dit fermer son chemin avec des épines et élever un mur, c'est comme le Seigneur te voit dans le péché, tu es comme embourbé dedans, puis il dit qu'il va faire en sorte que tu ne pourras pas y retourner. Il va te dénuder, il va t'emmener des épreuves tellement importantes, et en plus, il va élever des choses qui vont t'empêcher de retourner. Voyez-vous, la miséricorde, la bonté, c'est incroyable. Hein? Tu es dans le mal, tu es dans le péché, il te juge, puis après ça, il élève des murs pour empêcher que tu retombes dans le même péché. Quelle miséricorde. Aussi, parfois, le Seigneur se sert d'une meilleure compréhension des oracles de Dieu, ou autrement dit, une meilleure compréhension de sa parole. Dans le psaume 113, versets 12 et 13 et versets 16 à 17, on a l'exemple d'Asaph, qui a écrit ce psaume-là. On se souvient que il était comme scandalisé de voir que Dieu accordait des richesses et des biens, et que ça avait l'air à tout bien aller dans leur vie. Puis que c'était pour lui, c'était devenu comme une occasion de chute, là. C'était comme un scandale dans sa vie. Et Dieu a permis qu'il comprenne. Alors, c'est vraiment la compréhension de la parole de Dieu qui a fait en sorte qu'il a vu les choses en perspective. Ça dit, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Et dans le verset 16 et 17, là, ça dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Moi, je me souviens, dans ma vie, une période, ça m'est arrivé. Il me semblait que je marchais droit, puis j'avais de la misère à... Tu sais, le Seigneur ne répondait pas nécessairement à mes besoins d'emploi ou des choses comme ça. Puis je voyais des gens qui avaient des jobs comme ils voulaient. J'avais comme eu un petit moment de jalousie. Et là, tu t'arrêtes. Mais dans le fond, c'est ça. Tu dis, peut-être que le Seigneur lui donne quelque chose qui va lui faire plaisir matériellement maintenant. Mais si tu regardes avec ta perspective, tu vois ce qui s'en va. Tu dis, j'aime mieux être pauvre, puis pas avoir ça. Alors, c'est vraiment c'est la compréhension de la parole de Dieu qui parfois t'aide à... Aussi, parfois, le Seigneur enlève la vie physique. Dans Isaïe, chapitre 57, verset 1, « Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. » Alors, parfois, quand le Seigneur voit que tu te diriges dans une voie, il peut permettre même ton décès. Tu ne perds pas ton salut, mais tu perds la vie. Un peu comme dans 1 Corinthiens 11, le fameux passage où on parle du repas du Seigneur qui était pris indignement. Alors, on voit, et ça dit que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez-vous, il y a trois choses qui sont mentionnées. L'infirmité, la maladie et la mort. Alors parfois, ça pourrait arriver que certaines maladies soient une conséquence d'un péché. Mais ici, il va même jusqu'à la mort. Dans le cas de... C'est vraiment assez particulier. Il faut réfléchir parfois à ça. Proverbes chapitre 5, versets 12 à 14. Et que tu ne dises, combien donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Voyez-vous, il est en train de nous dire que parfois il en manque très peu pour que le Seigneur nous fasse un jugement sévère, très sévère même. Il dit, peu s'en est fallu que j'ai éprouvé. Alors, c'est à réfléchir aussi. De faire attention quand le Seigneur nous envoie des corrections ou des réprimandes, de savoir en tenir compte. Le deuxième point qu'on va regarder, la providence et la protection dans les dangers. Les protections de Dieu dans les dangers sont innombrables. Comme l'auteur que j'utilise, il dit, on ne pourrait pas faire un livre assez épais pour raconter toutes les protections de dangers qu'il y a à la fois dans la Bible et à la fois aussi dans l'histoire de l'Église et même dans nos histoires de vie personnelles. Alors, dans le psaume 121, dans le verset 2 à 8, le Seigneur nous dit que la façon dont il nous protège des dangers, c'est vraiment de façon étroite et constante. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors on voit que c'est constant, c'est permanent, c'est vraiment très étroit, que le Seigneur nous surveille en tout temps. Job, chapitre 7, verset 20. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler mes salives? Alors le Seigneur surveille continuellement. Aussi, on a un bel exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23-28, quand Paul raconte tous les problèmes qu'il a rencontrés, qu'il a risqué sa vie dans le ministère pour aller annoncer l'Évangile. Alors, dans son cas, lui, les dangers étaient causés par le fait qu'il était fidèle au Seigneur. Il dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. » Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Alors, c'est vraiment des coups de fouet, là. Il a arrêté à 40 parce que dans l'Ancien Testament, il disait de ne pas donner plus que 40 coups. Il en donnait un de moins pour être certain qu'il désobéissait pas. Mais 39 coups de fouet, là, 5 fois. À quelque part, il dit 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme. Alors, l'abîme, ici, c'est la mer. Probablement qu'il a fait de naufrage et, sur la mer pendant une nuit puis une jour, ça doit être extrêmement terrorisant. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, voyez-vous, il ne donne même pas la liste complète, il dit sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alors, Dieu dit que parmi toutes ces affaires-là où il a risqué sa vie autant comme autant, Dieu a permis qu'il se rende jusqu'où Dieu voulait qu'il aille. Dans Job 33, versets 16 à 18 et verset 28, « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Dans le verset 28, « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Le psaume 91, c'est un psaume qui nous dit que Dieu peut te faire passer à travers des choses extraordinairement dangereuses et qu'il ne t'arrivera rien. Je me souviens d'avoir déjà lu des histoires de soldats qui étaient des chrétiens en temps de guerre, qui normalement ils ont vu des choses extraordinairement cruels, durs, et eux ont traversé toute cette période-là sans que rien leur arrive. C'est un peu l'esprit du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voyez-vous, il peut traverser la peste. Imaginez-vous quand il y a eu des pestes en Europe, 50-60 millions de personnes qui sont mortes en Europe. Et il parle de toutes sortes de choses, des guerres, les flèches en plein jour. Et la personne qui se confie en Dieu, c'est sûr que Dieu peut permettre qu'il meure s'il le désire, s'il le veut. Mais il peut permettre qu'il traverse toute une série de situations qui, normalement, devraient lui enlever la vie. Et il sort de ça. Il voit beaucoup de problèmes, il voit beaucoup de choses mal, mais le Seigneur le protège de tout ça. Dans Ésaïe, chapitre 38, versets 9 à 11, on a l'exemple du roi Ézéchias qui avait voulu avoir du temps, plus de temps, 15 ans. Le Seigneur lui avait rajouté 15 ans à sa vie. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Et on se souvient qu'est-ce que l'Éternel a fait. Il lui a donné 15 ans de vie supplémentaire. Puis Ézéchias ne les a pas utilisés aussi intelligemment qu'il aurait dû. Je pense qu'il aurait dû accepter le fait de faire ce que Dieu lui avait dit, « Prépare-toi, tu vas mourir bientôt. » Et là, il avait plaidé, « J'ai toujours été fidèle, au moins encore 15 ans, donne-moi encore du temps. » Alors, on voit la sagesse de Dieu. Je pense que quand Dieu dit quelque chose, on sera mieux de dire, « Oui, amen, Seigneur, je m'en vais. » Mais là, il aimait tellement la vie, il a demandé, le Seigneur lui a donné des années supplémentaires, mais après, il a comme mal agi. Exode, chapitre 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, on voit le rôle aussi de Dieu dans la prévention des maladies. On a dans le psaume 140, verset 7, on a David qui reconnaît la protection de Dieu dans la bataille. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Alors à cette époque-là, les guerres, c'est qu'ils se mettaient face à face l'un les autres, puis ils s'envoyaient des flèches, ça te volait au-dessus de la tête. Alors le fait de. Il reconnaît le rôle de Dieu par le fait que sa tête a été couverte au jour du combat. Le compagnon et théologien de Jean Calvin, qui s'appelait Théodore de Bèze, a consigné par écrit dans son testament comment Dieu l'avait protégé dans la guerre civile en France. Il affirme avoir été délivré du danger à plus de 600 reprises sur une période de 22 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un, probablement aujourd'hui, ça doit avoir été conservé, ça, je ne l'ai jamais lu comme tel direct, mais ça devrait être intéressant de pouvoir lire. Parce qu'il a dû les consigner, imaginez-vous, 600 fois en 22 mois. Ça veut dire que vraiment l'Éternel tenait à ce que Théodore de Bèze soit un grand serviteur. On sait qu'il a fait beaucoup d'œuvres en même temps que, Jean Calvin. C'est lui qui l'a remplacé quand Calvin est parti. Alors, l'histoire de l'Église fourmille d'exemples de ce type. C'est sûr que si quelqu'un se met à étudier l'histoire de l'Église, il va en voir de ça de façon régulière, régulière, régulière. Psaume 107, versets 23 à 30. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. On se souvient de l'histoire de John Newton qui était un trafiquant d'esclaves et qui justement il était sauvé au milieu d'une tempête énorme. Je trouve ça, verset 26, je trouve qu'il utilise un langage poétique très fort. Hein? Il montait vers les cieux, alors tu vois la vague. Après ça, il descendait dans l'abîme. Quand on voit des tempêtes de mer, là, c'est effrayant. Les vagues de 50, 60 pieds, puis le bateau se promène là-dessus. Quand tu es là-dessus, sur le bateau, t'as là, puis ça y est, je crève, je vais mourir. Là, ça dit, dans leur détresse, ils crient à Dieu. Puis Dieu dit, OK, on se calme, ça se calme. Alors, on voit la main de Dieu dans toutes ces choses-là. Et on dit que John Flavel était dans un endroit en Angleterre où il était dans une église où il y avait beaucoup de marins. Il était dans un coin près d'un port. Alors, c'est sûr que pour lui, des histoires comme ça, il a dû l'entendre, là, maintes et maintes, histoires de marins qui étaient des chrétiens qui ont été sauvés à cause de l'intervention de Dieu. Psaume 124, versets 1 à 4. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors, les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient cessé sur notre âme les flots. Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Psaume 134, versets 19 et 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alors, bien entendu, c'est une très brève étude, mais on va faire les applications, parce qu'il y a toujours des applications à faire à partir du texte qu'on a vu ou des idées qu'on a vues. Alors, la première, l'action providentielle de Dieu dans la protection de notre vie vise plusieurs buts. Alors, Dieu ne fait pas ces choses-là juste pour s'amuser. Le premier, alors, c'est que nos corps doivent être utilisés pour Dieu. Les Écritures nous le rappellent souvent, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est une idée qui est bien difficile à saisir pour nous, qu'on s'appartient. On est trop porté à penser qu'il doit te faire de ce que je veux de ma vie. C'est ma vie, je vais en faire ce que je veux. Je ne sais pas si les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent qu'on ne s'appartient plus, on appartient à Dieu qui nous a rachetés à grand prix. Alors, donner notre vie à Dieu, ça veut dire que on reconnaît qu'on n'a plus aucun droit sur elle et que c'est l'Éternel qui a le droit de l'amener. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est justement ça que ça dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous dit pas ce qui sera de notre part un culte extraordinaire, raisonnable. Juste faire ça, là, c'est juste raisonnable, pas plus. Deuxièmement, nos corps vont participer à la gloire et au bonheur céleste. Pourquoi ils sauvent les corps de certains hommes? Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, il ne faut pas oublier qu'un jour, notre corps va participer au ciel avec... Troisièmement, adorons le Seigneur pour son infinie sagesse dans son œuvre de préservation et de protection de ses élus. Bien souvent, on ne prend pas la peine de le faire, mais si on prenait la peine de le faire, moi, je pourrais nommer au moins trois endroits dans ma vie où j'aurais pu me tuer, facilement. Puis, j'ai pas eu rien. Alors, des fois, c'est de les identifier puis de reconnaître la main de Dieu dedans. Parce qu'il n'y a rien qui arrive. Parce que des fois, il y en a qui ont juste un petit accident puis qui se tuent. Moi, j'en ai déjà eu un. J'ai rentré dans un fossé à 100 km à l'heure. Puis, j'ai frappé un gros tuyau de ciment, gros de même. Puis, j'ai rien eu. Je suis sorti de là. Rien. Même pas une ingratitude. Quatrièmement, gardons la balance. Faisons confiance à Dieu pour notre protection et notre préservation, et gardons-nous pour notre côté dans l'amour de Dieu. Alors, c'est toujours de faire confiance à Dieu, mais de pas, de dire, à cause que Dieu me protège, faire des choses insensées. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment de garder la balance. Oui, Dieu te protège, mais ça te donne pas le droit de faire n'importe quelle niaiserie, qu'on pourrait dire. Alors, faut se garder dans l'amour de Dieu. Jude 21, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, exalté et adoré à tout jamais. Amen. »